France Inter, le 6-9 du week-end.
Et la main verte, c'est avec vous. Bonjour Alain Baraton.
Quel bonheur que de vous retrouver. Bonjour Eric, bonjour Patricia, bonjour à tous.
Plaisir partagé, vous le savez bien. On va parler des abricotiers ce matin, parce que en ce moment, ce sont des arbres qui fleurissent, les abricotiers, et ça, dès le mois de février.
Eh oui, ça me plaît beaucoup. Ils suivent de peu les amandiers et précèdent les pêchers. Alors, voir ces fruitiers en fleurs dans les vergers est toujours un ravissement. Et quand vous descendez en ce moment en train vers le midi, il est possible d'en voir par la fenêtre. C'est véritablement superbe. Alors je comprends pourquoi Van Gogh, à peine arrivé à Arles le 20 février 1888, s'est dépêché de peindre sa série de tableaux « Vergers florissants » et de composer, je cite Van Gogh, un bouquet d'abricotiers en fleurs dans un petit verger vert frais.
Et d'ailleurs, il existe de nombreux points communs entre le pêcher et l'abricotier.
Oui, si le pêcher a pour nom botanique Prunus persica, à savoir prunier de Perse, l'abricotier se nomme Prunus armeniaca, ce qui signifie Prunus d'Arménie, prunier d'Arménie, pardon. Dans les deux cas, les arbres fruitiers ne sont pas originaires des pays indiqués, mais de Chine.
Et les Chinois, d'ailleurs, comme avec les pêchers, les Chinois en emportent pas mal avec eux dans leur voyage.
Hein. Oui, car le fruit se conserve longtemps. Ils en mangent ainsi au gré de leur déplacement et jettent sur les chemins les noyaux qui germent et donnent naissance à de nouveaux arbres. C'est ainsi qu'il est possible de suivre à la trace l'abricotier. Il s'installe d'abord en Russie, puis en Afghanistan, en Iran et en Arménie, où les Romains le découvrent, l'apprécient et l'emmènent en Italie.
On retrouve ensuite l'abricotier en Espagne.
Quand les Maures envahissent le Roussillon dans les années 700, ils arrivent là encore, avec les précieux fruits qui deviennent, après consommation, vous avez compris, de nouveaux arbres. Alors il faudra beaucoup de temps pour que le fruit soit vraiment apprécié par la population, l'abricot étant soupçonné de donner à ceux qui en mangent de la fièvre. Comme souvent, à Versailles, il est planté par Jean-Baptiste de la Quintinie quand il crée son fameux potager du roi, et tout ce qui est bon pour Louis XIV l'étant pour le peuple, eh bien, la mode de l'abricot est lancée.
Et comme l'arbre de Judée ou comme le cognassier, l'abricotier est une plante protérante, c'est-à-dire...
C'est un terme que j'emploie souvent et que Patricia Martin se souvient peut-être. Vous n'écoutez pas mes chroniques, j'en étais convaincu.
J'écoute vos chroniques et j'étais en train de penser à la confiture d'abricot que j'allais vous offrir.
Ah, c'est merveilleux.
Ah, une confiture d'abricot maison, qu'est-ce que
c'est? Ça, c'est vrai. Nous tiendrons les auditeurs au courant de l'avancée de la réception.
Bon, alors, la plante protérante, ça veut dire
quoi? C'est tout simplement quand une plante fleurit avant les feuilles.
Très bien. Alain Baraton, le jardinier de Versailles, vos conseils à présent et vos réponses aux questions des auditrices et auditeurs de France Inter. Christine voudrait vous parler de la renouée du Japon qui a commencé à pousser dans la parcelle voisine de mon jardin, dit-elle. Les propriétaires de cette parcelle ont-ils une obligation d'entretien contre cette espèce invasive? Renouée du Japon,
c'est quoi? La renouée du Japon, c'est une plante qui est véritablement invasive, qui a tendance, là où elle s'installe, à coloniser le terrain, parce que elle va épuiser pratiquement toutes les ressources du sol, elle est pratiquement impossible à éliminer, c'est véritablement ce qu'il est convenu d'appeler une peste végétale. Mais, voyez-vous, on ne peut pas obliger un propriétaire, sauf si la loi l'indique. Et il s'avère que j'ai trouvé l'article L411.3 du Code de l'environnement, qui pose le principe des plantes dites envahissantes.
Eh bien non,
apparemment il n'y a pas d'obligation à exiger de votre voisin de se débarrasser des fameuses renouées du Japon. Alors que faire pour éviter chez vous la prolifération?
Comment on fait?
L'éco-pâturage donne d'excellents résultats. Adopter un troupeau de moutons, pourquoi pas?
C'est facile.
C'est facile chez soi, ouais.
Oui, mais ça vous permet éventuellement après de consommer les bêtes.
Je le dis, c'est pour... Arrêtez, vous êtes horrible.
Mais je plaisante bien évidemment. Sinon vous tondez régulièrement, et au bout d'un moment, vous finissez
par... Vous tondez les moutons,
et vous finirez par en venir à bout.
Je vous vois en train de tondre les moutons, Alain Baraton.
Non, les pauvres moutons.
Mais j'adore les bêtes, vous savez.
Victoria a deux cyclamens qui ne fleurissent pas, contrairement à l'année dernière, malgré les petits boutons qui apparaissent, mais qui ne dépassent pas la hauteur de 2 à 3 cm, dissimulés sous le feuillage. Quoi faire?
Les fleurs sont les organes sexuels du végétal, et rien n'épuise davantage une plante que de fleurir. Si une plante fleurit, c'est qu'elle est en parfaite condition de vie, sauf si elle va mourir, mais ça c'est un autre sujet. Donc le cyclamen a peut-être trop de soleil ou pas assez, trop d'eau ou pas assez, une terre trop riche ou pas assez. Il y a une des raisons que je viens de citer qui explique que la plante est en difficulté, mais il faudrait être sur place pour savoir de quoi il en retourne exactement. Et puis de temps en temps, les plantes sont capricieuses, elles fleurissent pour vous être agréable, l'année suivante un petit peu moins.
Pardonnez-moi, il portait un verre d'eau, il passera pas l'émission.
Mais non,
je pense.
C'est l'allergie,
bien sûr,
de la ville. Donc voilà.
On y est.
Voilà.
Fabienne à présent, qui voudrait vous parler de son pot d'ostat. tous les ans, mon pot d'Osta est lâchement attaqué par des bêtes. J'ai contre-attaqué, dit-elle, avec des armes bio contre les limaces et escargots sans aucun résultat. Ne faudrait-il pas changer la terre ?
Non, parce que les escargots et les limaces viennent de l'extérieur. Petit conseil tout simple et tout bête à mettre en place. Vous vérifiez qu'il n'y a aucune limace ou escargot caché sous les feuilles. Puis vous allez chez votre voisin, si vous n'avez pas le bonheur d'avoir une cheminée, vous empruntez de la cendre due à la combustion du bois. Vous entourez le pot d'un petit talus de cendre et les chenilles et les limaces ne traversent jamais la cendre. C'est une manière comme ça, au moins pendant quelques temps, de voir vos plantes en fleurs.
En quelques secondes, Nicolas, pourriez-vous m'expliquer, Alain Baraton, la méthode que vous employez au château de Versailles pour désherber les allées gravillonnées dans les jardins?
La chaleur, on envoie de la chaleur dans la terre et de l'acide pélargonique. C'est un produit naturel obtenu à partir des fleurs de géranium. Attention, ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est forcément très sain, mais Versailles est un parc national qui se doit d'avoir une présentation impeccable.
Allez, on termine avec un dernier conseil pour la journée.
Lily Dou, bergère de vers de terre. C'est un petit bouquin pour les enfants. Lily Dou qui rencontre le professeur Tain. Deux vers de terre se sont égarés. Ils vont raccompagner les vers de terre auprès de leur famille. C'est merveilleusement écrit. C'est admirablement dessiné par Raphaël Garnier. C'est écrit donc par Marie Aubin. C'est publié chez Naturalia. C'est agréable, c'est beau. On rencontre une araignée, on rencontre une taupe. C'est la vie, quoi. C'est du bonheur.
C'est la vie avec Alain Baraton, jardinier au château de Versailles. Merci Alain. À samedi prochain.